En ce 10 avril, la rencontre spirituelle, c'est traditionnellement la fête du prophète Saint Ézéchiel. En effet, autrefois, on appelait Saint Ézéchiel, comme on dit parfois Saint David, et sa fête dans l'Église latine se célébrait le 10 avril. Ézéchiel a été prophète, très grand prophète, au 6e siècle avant Jésus-Christ, lors de la prise de Jérusalem par Nabucodonosor. Et vous le trouvez dans votre Bible, comme vous le savez probablement, après Isaïe, après Jérémie, et on trouve là Ézéchiel, un très grand prophète. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ce grand saint Ézéchiel était tout un prophète. C'est un personnage extraordinaire, hein? On parle souvent de prophète de malheur, mais je trouve que ce prophète, c'est un vrai prophète qui annonce le bonheur. Vous pensez peut-être, devant certains drames qui se déroulent à la surface de la terre, que c'est la fin du monde. Eh bien, voyons, si vous lisez Ézéchiel, vous verrez que Dieu est toujours là avec Israël. Il est toujours là avec nous. Il prend soin de nous. Ce n'est pas la fin du monde. Ne vous inquiétez pas. Il y a peu de textes dans la Bible qui ont suscité autant d'approches différentes que le livre d'Ézéchiel. On est allé très très loin. Il y a des gens qui se sont penchés là-dessus, un peu comme on se penche sur un grand malade, et ont vu un cas intéressant et étrange. D'autres ont vu là, dans Ézéchiel, le premier témoin des ovnis. Il faut vraiment le faire, hein. Puis il y en a d'autres même qui ont interprété le premier chapitre, je vous en lirai des passages tout à l'heure, comme la description plus ou moins ésotérique du cerveau humain. C'est vraiment l'imagination de certaines personnes, ça dépasse l'entendement. Parce que le livre d'Ézéchiel a eu, il faut l'avouer, un certain mal à se faire admettre dans la Bible, dans ce qu'on appelle le canon des Écritures, hein, dans les livres, parmi les livres de la Bible. Et puis le judaïsme, qui a établi la liste de ces livres saints lors du fameux synode juif de Jamnia, vers l'an 90-95 de notre ère, oui, au moment où probablement Saint Jean écrivait son évangile. Eh bien, l'un des critères retenus par les Juifs, là, était celui-ci, que les textes qui étaient candidats à devenir, à entrer dans la Bible, devaient être en accord avec celui de la Torah, puis le texte d'Ézéchiel posait justement des problèmes à ce sujet-là. Mais il y est passé. Au Concile de Trente, on a aussi eu des difficultés devant le livre d'Ézéchiel. On craignait qu'il ne puisse être compris. Pourtant, d'accord, c'est un texte assez surréaliste dans un sens, mais c'est très riche et très beau. Et encore aujourd'hui, on chante des passages d'Ézéchiel, de très beaux passages que l'on chante dans nos liturgies. Grâce aux dates qui sont données par son livre, parce qu'il donne des dates, Ézéchiel, on peut situer de façon assez précise le ministère de ce grand prophète, entre les années 593 et 571, évidemment au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et cette période, c'est l'une des plus tragiques de toute l'histoire d'Israël. Quand on connaît un peu l'histoire d'Israël, les institutions juives disparaissent. Il y a une réflexion radicale qui devient absolument indispensable pour que le peuple juif puisse survivre. Et c'est un tournant décisif de l'histoire d'Israël qui s'opère à cette époque. Il y a rien qui sera plus pareil après la chute de Jérusalem. C'est dramatique, cette chute de Jérusalem, pour ces gens-là, qui sont nos ancêtres dans la foi, réfléchissons bien. Et Ézéchiel, il vit, lui, intensément ces événements. Il n'est pas seulement observateur, il prend personnellement parti. C'est un prêtre, son ministère se situe... En effet, avant puis après la chute de Jérusalem, qui est survenue, elle, la chute de Jérusalem, en 587. Et ces deux aspects-là, là, avant puis après ce grand malheur, ça colore sa personne, son œuvre. Hein. Il est prêtre et il est prophète, puis il annonce une parole de bonheur. mais aussi un peu de malheur. Ézéchiel est devenu prophète, mais, je vous l'ai dit, il était né prêtre. La parole du Seigneur fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, prêtre. C'est le troisième verset du premier chapitre. C'était fils de Buzi. Dans l'Antiquité, la prêtrise, c'était une fonction héréditaire. Et on était prêtre parce qu'on était fils de prêtre. On peut presque voir ça chez nos frères orthodoxes et nos frères catholiques de rite oriental qui ont, dans certaines églises, l'autorisation de se marier étant donné leur droit canon particulier. Et on voit ça de père en fils, ils sont prêtres. Mais là, c'était héréditaire chez les Juifs. Ézéchiel n'est pas le seul à être devenu prophète. Jérémie appartenait lui aussi à une famille sacerdotale. Mais il n'a probablement jamais exercé son ministère de prêtre. Sa famille avait été exilée par Salomon. Il est intéressant de voir jusqu'à quel point Ézéchiel, qui est né prêtre, l'est demeuré, car peu de fonctions préparaient aussi mal au ministère prophétique, si on peut dire, que celle de prêtre. Parce que le prêtre était engagé dans les lois, il fallait qu'il soit très observant, faire observer les lois, la Torah. Il était issu donc d'une famille habitant Jérusalem qui exerçait son service au temple, dans le grand temple de Jérusalem. Ézéchiel a eu, sans aucun doute, une éducation typiquement sacerdotale. Il a dû, pendant toute son enfance et sa jeunesse, vivre plutôt séparé du reste du peuple. Il devait respecter des règles de pureté particulières. Puis l'apprentissage du métier, jusqu'à son entrée en fonction, a dû aussi l'accaparer. Et son livre est rempli d'éléments qui montrent combien Ézéchiel est resté prêtre dans sa mentalité et ses occupations profondes, prêtre juif. Un des rôles du prêtre en Israël, c'était de discerner le pur de l'impur. Ils ont encore ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a de la nourriture cachère. Ils sont très attachés, nos frères juifs, sur toutes sortes de questions comme celle-là. Les musulmans ont un peu ça aussi. Nous n'avons absolument pas ça, nous ne connaissons rien de tout ça. À deux reprises, Ézéchiel insiste sur cette distinction entre le pur et l'impur, et dans la première partie de son ministère, il dresse d'ailleurs une liste d'accusations contre les différentes couches de la population. Les prêtres y sont accusés de ne pas faire la différence entre le pur et l'impur, pas plus qu'entre le saint et le profane. Ézéchiel y revient dans la seconde partie de son ministère, au chapitre 40 et 48, là. C'est assez long, le livre d'Ézéchiel, c'est beau. Puis il envisage, dans ces chapitres-là, la situation idéale qui devrait être celle du peuple après le retour de l'exil à Babylone, parce qu'ils ont été chassés de Jérusalem, puis enlevés. Il est préoccupé de prendre toutes les mesures nécessaires aussi pour garantir définitivement cette distinction à ses yeux extrêmement importante entre le pur et l'impur, entre le sacré et le profane. Et l'une des fonctions des prêtres sera précisément, là, comme il le dit lui-même au chapitre 44, d'apprendre à mon peuple, c'est Dieu qui parle par sa bouche, d'apprendre à mon peuple à distinguer le sacré du profane, à lui faire connaître la différence entre le pur et l'impur. Nous, on a un peu perdu dans l'Église catholique le sens du sacré. Et on se promène dans le cœur de nos églises, habillés n'importe comment, un peu à la course, sans faire de génuflexion, sans avoir une attitude de respect pour le maître-autel ou pour la présence réelle dans le tabernacle. On fait tout ça à la course devant les fidèles qui attendent, et ça enlève, me semble, quelque chose de très important. Et ainsi de suite, je pourrais donner d'autres détails qu'on voit malheureusement. Mais il y a aussi dans des églises beaucoup de respect pour le sacré, heureusement. Il est important, en tous les cas, de constater combien Ézéchiel est resté prêtre. Et la nouveauté de sa mission prophétique n'apparaît au fond que plus grande. Car le prêtre, c'est l'homme de la tradition, puis de la répétition. Le prêtre doit toute sa vie répéter des gestes, mais répéter aussi les grandes vérités fondamentales, alors que le prophète, lui, c'est l'homme de l'aujourd'hui. Il invente, et c'est l'homme de la nouveauté, puis il est l'homme de l'institution, lui, Ézéchiel, dans laquelle il naît. Homme de l'institution par naissance, hein, en dépendance étroite de la monarchie. Et puis, Ézéchiel, comme prêtre, ben, il est tourné vers le passé, où il puise des instructions à transmettre au peuple. Ézéchiel est donc prêtre du sanctuaire principal de la nation, le temple de Jérusalem. Ce n'était pas, a priori, l'homme le plus apte à réaliser une mission prophétique. On trouve dans un bel ouvrage de Daniel Rops certains détails sur Ézéchiel qui sont passionnants. Parce que le plus remarquable, dit-il, des guides qui, pendant l'exil du peuple juif, ont dirigé Israël, c'est bien Ézéchiel. C'est le troisième, comme il dit, des grands prophètes que je vous ai dit tout à l'heure. Il avait fait partie du premier convoi de déportés en même temps que le roi Jéconias. Il était animé de l'esprit prophétique. Il unissait en lui les deux courants, sacerdotal et prophétique, qui pouvaient maintenir vivante l'âme d'Israël. C'était un homme étrange et austère, un peu fanatique. La vision des horreurs où sombreraient les ennemis d'Israël l'emplissait de frénésie un peu joyeuse. C'était un peu curieux, il pouvait se réjouir de ça. C'était la mentalité du temps, mais ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Et pourtant, c'est lui qui a formulé au nom de Yahvé le mot de toute miséricorde. Vous connaissez ça, hein? « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais qu'il se repente et qu'il vive. » C'est dans Ézéchiel, ça, au chapitre 18. « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais qu'il se repente et qu'il vive. » Et c'était un grand poète dans le genre fantastique et tragique. Non, on a l'impression des fois que ça ressemble un peu à Edgar Allan Poe ou à William Blake. Vous connaissez William Blake? Ou Hölderlin. Ses visions sont décrites en termes souvent hallucinants. Puis, dans sa vie même, Ézéchiel multiplie les gestes symboliques. Il se brûle un tiers des cheveux en hachant le second tiers avec une épée, puis en dispersant le reste. C'est une image du destin d'Israël. Il veut montrer que le peuple d'Israël va se disperser en posant des gestes, pour ainsi dire, presque surréalistes. Un jour, qu'il se trouvait au bord d'un fleuve, l'air vint à lui là, comme une nappe de feu, et une masse éblouissante, semblable au métal en fusion, lançait des éclairs. C'est ce qu'il raconte. Alors, le prophète a su que Yahvé était là. Et un char étrange, aux roues tourbillonnantes, des figures mystérieuses où l'image de l'homme se mêlait à celle du taureau, de l'aigle et du lion, passait dans cette extase. Et sous la voûte du ciel, comme un cristal étincelant, un trône de saphir se dressait et les ailes des anges battaient avec le bruit des grandes eaux. Hein. Et puis il entend fils de l'homme, ou fils d'homme, ou simplement homme, debout, dit une voix, je t'envoie aux enfants d'Israël, c'est une nation rebelle, ne la crains point, ne la crains point. Mais toi, fils d'homme, obéis et mange ce que je vais te donner. Et le rouleau d'une main du ciel lui qu'une main du ciel lui tendait, c'est un rouleau de la Bible, hein? Ézéchiel l'avale. Oui, parce qu'il faut manger la nourriture de la parole de Dieu, hein? Faut s'en nourrir. Alors, c'est toute une symbolique magnifique, c'est surréaliste, mais c'est poétique et c'est très beau. Alors, il dit que cette nourriture lui fut plus doux que le miel. Et dès lors, rempli du message divin, il s'est arraché lentement à son extase, puis est allé annoncer au peuple ce qu'il avait charge de lui dire. C'est très beau, cette symbolique. C'est dans Ézéchiel, au premier chapitre. On verra ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Saint Ézéchiel, son rôle de prophète consiste d'abord à ramener ses compatriotes juifs au bon sens. À ce moment-là, Jérusalem n'est pas encore prise. C'est avant la prise de Jérusalem. Et puis, par Nabucodonosor. Puis les espérances les plus folles agitent les exilés. De faux prophètes les propagent et puis ne font qu'attirer sur eux et sur leurs frères des représailles, des Chaldéens. Ézéchiel s'applique à effacer les mirages. Il dit que Jérusalem sera détruite, tout le prouve. Ses péchés, qui n'ont pas été pardonnés ou La suite fatale de l'histoire, c'est ça. Hein. Et tant que la mesure du châtiment, il appelle ça un châtiment, tant que la mesure du châtiment nécessaire ne sera pas atteinte, là, ben, il va y avoir une désagrégation du peuple qui va se poursuivre. Et il demande aux déportés qui ne comptent que sur eux-mêmes, parce que c'est là que se tient l'avenir d'Israël. Hein. À l'heure où le roi Sédécias tente une dernière révolte, Ézéchiel, qui vient de perdre sa femme, ne prend même pas le deuil. Pourtant, il l'aimait beaucoup. Et il se réserve pour une autre tristesse. Il est tout en rempli de l'image des catastrophes imminentes. Puis, il écrit que la 12e année de son exil, le 5e jour du 2e mois, un fugitif de Jérusalem arrive et dit « La ville est prise ». Alors là, le prophète, il sort de son mutisme, de ce qu'il appelle sa nuit obscure, comme Saint Jean de la Croix. Il se lève, puis il commente l'événement, puis il en montre au peuple le sens surnaturel. C'est un peu comme ici, dans l'Occident, et la chute de l'Occident dans une civilisation matérialiste et terrible. Il y a un sens surnaturel à tout ça, au malheur que nous avons à affronter. Le vide appelle le plein, et le vide que nous ressentons au fond de nos âmes, de nos cœurs, appelle Dieu, hein? La présence de Dieu, la gloire de Dieu. Alors dès lors, pour Ézéchiel, l'espérance humaine, là, c'était comme engloutie, il n'y en avait plus. Les nouveaux déportés arrivent. Et dans ces masses accablées par l'angoisse, Ézéchiel commence à prêcher une parole nouvelle. Et d'un seul coup, le peuple, qu'on appelle au cou raide, n'est-ce pas, vous connaissez l'expression, hein, devient plus souple. Le peuple est prêt à accepter l'enseignement du prophète. Et pendant 20 ans, ce consolateur obstiné lui parle de sa grandeur passée, des promesses divines dont Israël demeure le bénéficiaire. Il maintient vivante la conscience nationale de ce peuple. Il tourne vers l'avenir des forces qui, dans nostalgie du passé, se seraient épuisées. Alors là, des fausses anciennes, il ne cache rien. Il leur dit. Mais sans cesse, il rappelle même ses fautes d'autrefois. Mais ce n'est plus sur le péché qu'il met l'accent. Il met l'accent sur la rédemption, disons, sur la libération intérieure. Alors, prenant pleinement conscience du drame, de la chute et du relèvement, bien, l'esprit juif le place dès lors au centre de ses conceptions religieuses. Et toute sa vie spirituelle en est illuminée, puis la théologie de saint Paul se situe là, dans la ligne d'Ézéchiel, quand on y pense. Hein. Et l'idée admirable qui a déjà été indiqué par Isaïe et Jérémie, de la responsabilité individuelle. C'est chacun qui est responsable de ses fautes, mais ça prend alors chez lui, chez Ézéchiel, une place essentielle. C'est nouveau, c'est pas la faute commune, c'est pas tout le monde qui est puni pour une faute. Non, c'est la responsabilité individuelle. Il lui consacre d'ailleurs un chapitre entier, le chapitre 18. Il y revient sans cesse. Hein. Et puis, pour lui, la justice de Dieu, si elle châtie les nations, comme tous les prophètes l'avaient dit, mais la justice de Dieu tient compte des efforts de chacun, dit-il. Alors, on voit se dégager la responsabilité individuelle à laquelle nous croyons profondément. Hein. À l'intérieur du corps mystique, va sans dire. Et comme Jérémie, qui protestait contre le dicton « Les pères ont mangé du verjus et les dents des fils en sont agacées », bien, il développe, lui, « Non, le fils de l'impie ne sera pas châtié pour les fautes de son père. Non, les vertus des ancêtres ne protègent pas leurs infidèles descendants », dit-il. Chacun vraiment est responsable pour soi. Chacun est responsable de soi. À chacun, Dieu donne son amour. À chacun, Dieu offre la chance du salut. Et ce salut, c'est encore sans doute, dans une perspective limitée à la terre qu'on l'envisage, mais c'est un salut personnel. Hein? Alors là, la religion individuelle progresse. Puis, Si Ézéchiel insiste moins que Jérémie sur la misère intérieure de l'homme, puis son besoin de consolation, Ézéchiel, lui, met en pleine lumière la grâce divine, puis le don qu'en reçoit chacun. Et c'est comme ça, grâce à Ézéchiel, que l'âme d'Israël, exilée, prend vie. Ça nous prendra un Ézéchiel ici pour qu'on reprenne vie davantage. L'antique loi, la Torah, dont on a sans doute emporté que quelques fragments écrits, mais qu'on garde au fond des mémoires, on la ranime. C'est très important pour eux, l'observance des lois, les Juifs. Hein? Alors on en reprend le texte. Et Ézéchiel y ajoute de nouvelles interprétations. Bon, bien que prophète, c'est-à-dire expression de l'esprit même de Yahvé, il sait en prêtre l'importance des rites et de la liturgie. Alors il en précise les modalités. Et c'est le troisième aspect de cette personnalité si riche. Hein? Il se fait législateur, juriste. Il bâtit pour l'avenir la constitution de cette communauté des fidèles juifs. Et ainsi, à l'heure où tout semblait perdu, un homme s'était trouvé qui avait dit à Israël de ne pas désespérer. Ne désespérons pas, je me fais un tout petit Ézéchiel aujourd'hui, je vous invite à ne pas désespérer. La flamme surnaturelle qui brûlait dans l'âme d'Ézéchiel a maintenu vivant le feu sacré de la mission nationale. Pas un instant, le peuple des exilés ne doute que la grâce de Dieu qui efface ses péchés ne puisse retourner sur sa terre qui a été dévastée en Israël, puis de s'y refaire une sorte de paradis. C'est au chapitre 36. Alors les visions surprenantes que ce grand inspiré qu'est Ézéchiel raconte étaient autant que de promesses. Ça animait le peuple juif. Une fois, en extase, il avait vu une plaine ouverte. Elle était couverte d'ossements desséchés. À l'ordre de Yahvé, l'esprit était revenu sur ces lamentables squelettes et la chair avait bourgeonné. La peau s'était de nouveau tendue et dans un cri immense, les morts étaient redevenus vivants. On voit ça au chapitre 37. Alors arraché de même à la mort, le peuple élu, le peuple juif, rebâtirait son temple. Une autre fois, c'était ce sanctuaire futur qu'Ézéchiel, dans ses visions, décrivait, hein, à l'écart des souillures humaines, là, sur la sainte colline, là, entouré des demeures des justes, admirable et presque inaccessible, mais un fleuve d'eau vive coule de ses hauteurs, puis va apaiser la soif des pays désolés où la mer morte étend ses eaux de plomb. On lit ça au chapitre 40. Et une fois encore, c'était les épreuves suprêmes qu'il évoquait. Mais on voit la face de Dieu. Il sent l'espérance. La face de Dieu, c'était elle qu'il fallait désormais considérer dans le futur. Le royaume de Dieu approchait, et là, la communauté des rachetés devrait attendre la venue du Messie, de celui par qui la gloire serait comblée. Et Jérusalem, changeant de nom, devrait désormais se dire « Dieu est présent ici ». C'est ce qu'il écrit. Hein? « Dieu est présent ». Oui, n'oublions jamais que Dieu est toujours présent parmi nous. Ne désespérons pas. On revient au début. Le livre du prophète Ézéchiel s'ouvre par une vision grandiose. Et c'est l'arrivée de la gloire de Dieu en Babylonie. Mais la présence de la gloire de Dieu dans le pays des exilés, elle n'est que le cadre où le prophète Ézéchiel va recevoir sa mission prophétique. Il raconte au tout début là le récit d'une vision, sa vision. Pour vous en faire un résumé, c'est très beau, je vous le lis. La 30e année, au 4e mois, le 5 du mois, alors que j'étais au milieu des déportés, près du fleuve Kébar, en Babylonie, là, les cieux s'ouvrirent et je vis une vision divine. Et là, la main du Seigneur fut sur moi. Je regardai. Et voici qu'un vent de tempête venait du nord, et un gros nuage, et un feu étincelant, et au milieu du feu, il y avait une ressemblance de quatre vivants. Et telle était leur forme, ils avaient une ressemblance d'homme. Ils avaient chacun quatre ailes. Deux ailes se touchaient l'une l'autre, et deux ailes couvraient leur corps. Et entre les vivants, il y avait un feu, comme des charbons ardents. Et la lueur était celle du feu et du feu sortaient des éclairs. Il y avait une forme au-dessus de la tête des vivants, le firmament comme l'éclat du cristal. Et au-dessus du firmament, il y avait comme la forme d'une pierre de saphir, une ressemblance de trône. Et sur cette ressemblance de trône, il y avait une ressemblance comme l'aspect d'un homme au-dessus. Et je vis comme l'éclat du vermeil, depuis ce qui paraissait ses reins. Et au-dessus, et depuis ses reins et au-dessous, je vis comme l'aspect du feu. Et une lueur était à lui tout autour. Tel l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages un jour de pluie, l'arc-en-ciel, tel l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages un jour de pluie, tel était l'aspect de la lueur tout autour. C'était l'aspect de la ressemblance de la gloire de Yahvé. Je regardai et je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Vous direz, c'est incompréhensible. Oui, c'est d'une grandeur, il faut savourer ces beaux textes-là. Parce que cette vision du prophète Ézéchiel, c'est pas aussi compliqué qu'on le prétend. Au point de vue du style, bon, elle est, en somme, quand on la lit et la relit, disons, 2-3 fois, elle est assez sobre. C'est seuls les éléments indispensables qui sont mentionnés finalement, hein. Dans une première partie, on a, bon, là, je vous l'ai dit, là, la date, l'ouverture des cieux, le moment où les cieux s'ouvrent, puis la mention de la vision divine, puis la main de Yahvé, le vent, la lumière et le feu. Puis une deuxième partie, là, présente les vivants, là, les quatre, le feu puis le firmament. Puis la dernière, enfin, mentionne le trône, l'homme, c'est sur le trône, la lueur puis la gloire de Dieu. C'est assez étrange, mais c'est très beau. Les quatre vivants, attachons-nous à eux. Ça semble être le support du firmament, sur lequel se trouve la ressemblance de trône. Alors le chiffre 4, pourquoi 4? C'est connu comme symbole chez les Juifs de totalité. Et encore pour nous aujourd'hui, d'ailleurs, on parle des 4 points cardinaux. Hein. La présence des 4 vivants, qui ont une ressemblance d'homme, symbolise ici la totalité du monde. Donc, Dieu règne sur la totalité du monde. La gloire de Dieu, là. Et tous ces éléments ne font cependant que préparer l'essentiel de la vision, là, c'est justement la gloire de Dieu. Et cette gloire est présente dans différents textes de l'Ancien Testament. Bon, disons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une description de la présence de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas Dieu, mais une façon d'exprimer la présence personnelle de Dieu. Alors, la gloire de Dieu est considérée dans l'Ancien Testament de 2 façons. D'une part, bon, l'importance, le poids de Dieu doit être reconnu, puis accepté par les Israélites. Et cette reconnaissance doit se manifester dans leur comportement. C'est pas tout de reconnaître Dieu, de dire Dieu existe. Il faut se comporter d'une façon digne en rapport avec Dieu. Reconnaître la gloire de Dieu, c'est faire sa volonté. C'est lui être fidèle. Et d'autre part, ils doivent, les Israélites, reconnaître la gloire de Dieu dans le culte aussi. Reconnaître la gloire de Dieu dans le comportement et dans le culte, c'est reconnaître la relation qui existe entre la divinité puis le fidèle. Alors, il ne faut pas s'y tromper. La gloire de Dieu ne vient pas en Babylonie pour offrir sans plus un spectacle grandiose, et non plus pour être l'occasion d'une expérience personnelle extraordinaire pour Ézéchiel, non, non. Cette théophanie, cette manifestation de Dieu, c'est ça que ça veut dire théophanie, vous le savez, hein? Cette manifestation de Dieu dont le prophète Ézéchiel est le destinataire, là, a comme but une parole qui, par son intermédiaire à lui, Ézéchiel, doit atteindre l'ensemble des exilés, l'ensemble d'ailleurs du chapitre premier, c'est comme l'introduction, l'ouverture de ce qui vient après. Et cette théophanie, dont je vous ai lu le texte tout à l'heure, est faite pour la parole. Et jusqu'ici, on a vu, maintenant on va entendre. Et là, la parole entendue dans le cadre de la théophanie établit le prophète dans sa fonction. Reprenons l'ensemble du texte. Bon, Dieu, le peuple, le prophète, assez rapidement. Dieu est maître. C'est lui seul qui a l'initiative. Et dès le début de la vision, Ézéchiel déclare la main du Seigneur fut sur moi et je vis. J'ai vu des choses. C'est l'Esprit qui fait tenir debout le prophète. Et toute la suite n'est pratiquement qu'un long discours du Seigneur. Et là encore, c'est lui qui fait tout. À deux reprises, il déclare « Je t'envoie ». C'est lui qui habilite le prophète pour cette mission qui lui est confiée. Comme Dieu habilite le pape, nos évêques, nos prêtres, il habilite les gens à prendre la parole. Nous sommes habilités de par notre baptême. Encore faut-il être fidèle à l'Église, fidèle à l'Écriture sainte. Dieu dit, « Je rends ton visage aussi dur que leur visage, et ton front aussi dur que leur front. » Mais cette habilitation, cette charge qu'il lui donne, est plus que le don de l'endurance physique. Comme dans tout récit de mission, le Seigneur donne un signe à Ézéchiel. Et ici, le signe est bien particulier. Le prophète Ézéchiel ne doit pas seulement écouter la parole que le Seigneur va lui dire. Il doit l'avaler. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Et l'initiative du Seigneur va encore plus loin. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. C'est curieux, mais c'est très beau, manger la parole de Dieu, s'en nourrir. Alors si le Seigneur parle, c'est pour confier à son prophète la mission de parler, de proclamer la parole au peuple. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, tu leur diras mes paroles. Alors Dieu parle à son peuple à cause de son amour pour lui, qui est exprimé dans l'élection du peuple juif. Mais nous sommes maintenant, toute l'humanité, le peuple élu de Dieu. Car Dieu aime autant les Patagons que les Esquimaux, les Bantous que les Chinois, les Arabes que les Québécois, les Français, les Canadiens, les Américains. Dieu aime tout le monde. À quatre reprises, le peuple juif est qualifié de « maison de rébellion ». L'image du peuple qu'offre le texte est particulièrement lourde. Il les accuse. « Si je t'envoyais à des peuples, au parler impénétrable et à la langue épaisse, est-ce qu'ils ne t'écouteraient pas? Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. Et nous sommes rendus comme le peuple d'Israël de cette époque ici. Il semble que notre peuple ne veuille plus entendre la parole de Dieu. » Chez les jeunes, pour prier, faire quelque chose. Alors voilà la racine du mal. Ils ne veulent pas écouter le Seigneur. On voit ça dans le livre d'Ézéchiel. Et cependant, dit Dieu, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Alors Ézéchiel, c'est ce prophète qui apparaît dans ce texte comme particulièrement passif au début. À la différence d'Isaïe ou de Jérémie, il ne réagit pas. Il ne pose aucune résistance. On lui fait d'ailleurs comprendre qu'il doit être docile, qu'il ne doit pas être rebelle comme son peuple. Il se fait dire, « Fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette maison de rébellion, comme ce peuple rebelle, quoi. » Et cette mise en garde ne suffit pas. On le prévient aussi que la mission sera dure. C'est une mission dure que celle des évêques, celle des gens qui sont chargés de transformer la foi des jeunes aujourd'hui. C'est difficile. Il est dit, le peuple ne l'écoutera pas, plus qu'il n'écoute le Seigneur, et ils ne cesseront de le harceler. C'est dit, n'aie pas peur quand ils disent, des ronces t'entourent, et tu es assis sur des scorpions. Alors le prophète Ézéchiel ne doit pas avoir peur. Le vrai prophète n'a pas peur, car le Seigneur va le rendre aussi dur et résistant qu'eux. Il y a pourtant de quoi avoir peur. Car les paroles que doit dire le prophète sont des lamentations, des gémissements et des plaintes. Et pourtant, les dures paroles du Seigneur sont, dans la bouche d'Ézéchiel, douces comme le miel. Et voilà donc Ézéchiel qui va être prêt pour sa mission. Il doit aller vers son peuple rebelle, annoncer les jugements du Seigneur, ses paroles. Et la mission est dure, mais il n'est pas seul. Il n'est qu'un envoyé. Alors, avant la chute de Jérusalem, toute la première partie du ministère prophétique d'Ézéchiel est dominée par deux thèmes. Le dévoilement des faux d'Israël. L'annonce du châtiment, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem, puis l'exil des Juifs. Ces deux thèmes comme un dénominateur commun court à travers les actions symboliques des différents chapitres, les oracles, etc. Bon. Ézéchiel accuse les prophètes de se prétendre prophètes alors qu'ils n'ont pas été envoyés. Et du coup, on voit ça et on comprend la deuxième accusation. Ils ont travesti la fonction et le message prophétique. C'est le danger, parfois, quand certains prêtres ne sont plus fidèles, ça peut arriver. Au lieu de dévoiler le péché et les dangers qui guettent le peuple, ils ont fermé les yeux. C'est dans Ézéchiel. Au lieu d'annoncer qu'il n'y avait pas de paix et de prêcher la conversion, ils ont endormi le peuple par des paroles de paix. Alors la gloire du Seigneur quitte le temple. Et dans ce texte où il est question de ça, bien Ézéchiel nous apparaît comme prêtre et prophète, prêtre par le genre de faux dont il accuse le peuple, et prophète par l'ouverture d'esprit qu'il manifeste en décrivant le départ de la gloire du Seigneur dont il était question tout à l'heure. Et le plus extraordinaire, c'est qu'Ézéchiel ait pu voir le châtiment parvenir à cet extrême, la gloire de Dieu quitter le temple, son lieu normal d'habitation. Et qu'un prêtre puisse imaginer un tel événement n'est possible que si l'Esprit le pousse, que s'il devient prophète, et cette force permet à Ézéchiel de voir jusqu'où va aller le châtiment et de montrer que le temple, que la présence du Seigneur n'est pas une garantie inconditionnelle de salut, que s'il a bien voulu habiter avec son peuple, il peut aussi s'en aller. Mais elle fait comprendre aussi au prophète que l'amour de Dieu va plus loin que le châtiment et qu'il peut toujours se manifester de nouveau. Alors après la chute de Jérusalem, il faut lire ça, vous seriez passionné de lire ça. Personne n'est constitué vrai prophète une fois pour toutes. Et là, la fidélité au Seigneur puis l'obéissance constante à sa parole doivent être toujours les ferments du ministère des prophètes, de ceux qui sont chargés de la parole. Les obstacles à cette mission peuvent devenir autant de tentations, de dévier, et on peut alors tomber dans des fausses prophéties. On le voit bien aujourd'hui. Le seul critère qui semble être toujours valable, c'est celui d'une parole prophétique qui appelle à la conversion. C'est la qualité première. Si on est interpellé à la conversion, on peut écouter celui qui parle. À tout à l'heure. Que celui qui ne ressent pas dans sa chair le décalage entre Dieu puis son peuple, celui qui n'intercède pas pour le peuple qui sombre dans la misère, celui qui ne tente pas de le sauver en l'appelant à la conversion et en même temps en appelant Dieu à la miséricorde, celui-là n'est pas un prophète. N'écoutez pas ceux-là. Allez vers d'autres, à l'intérieur de l'Église, si vous êtes catholique, votre soi. Mais quel chrétien n'a pas déjà chanté « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. » C'est un des rares textes d'Ézéchiel qui a fait fortune au cours de l'histoire. Il fallait avoir une foi bien profonde et être réellement soumis à la parole du Seigneur pour oser annoncer, après la chute de Jérusalem, ce message d'un cœur et d'un esprit nouveau. La sanctification du nom de Dieu va s'opérer dans le peuple, s'il se convertit. Dans l'ensemble des prophètes, on peut dire que le prophète Ézéchiel apparaît comme très personnel. Bien plus souvent que dans les autres livres prophétiques, le message qu'il annonce, qu'il délivre, est présenté comme lui étant directement révélé par Dieu. Il y eut une parole du Seigneur pour moi, la main du Seigneur fut sur moi. Il répète souvent la parole que Dieu lui adresse, là, « Écoute, fils d'homme, puis il me dit. » Alors, de plus, on trouve chez lui des formules significatives qui lui sont propres. « Fils d'homme », il est presque sûr que c'est Ézéchiel qui a forgé l'expression. L'expression « fils d'homme » se trouve 93 fois dans le livre d'Ézéchiel, ce qui représente le quart des emplois du terme « homme » dans tout l'Ancien Testament. La construction « fils d'homme », c'est typiquement hébraïque. Ézéchiel l'emploie dans une intention bien, bien précise, et cela apparaît dès son premier usage. Au tout début, dans le deuxième chapitre, le prophète vient de faire l'expérience de la présence de la gloire de Dieu. Alors il tombe à terre, et l'Esprit le met debout. Et la première parole qu'entend Ézéchiel est précisément « fils d'homme ». Ce contraste entre la grandeur et la gloire, entre la grandeur de la gloire de Dieu et ce petit homme à terre, donne déjà le sens des rapports que le prophète établit avec son Dieu. Ézéchiel n'est qu'un fils d'homme, c'est-à-dire un homme tout simplement. Pensons-y en communiant. Nous sommes de petits êtres humains sur cette planète. Et la gloire de Dieu vient vers nous et se donne à nous dans l'Eucharistie. Puis l'autre expression est « Tu sauras que je suis le Seigneur ». Cette formule avec ces deux parties « Tu sauras que je suis le Seigneur » constamment utilisée par Ézéchiel fait le lien entre l'action et l'être du Seigneur. Le fait que l'affirmation « Je suis le Seigneur » vienne en seconde position exprime clairement que la révélation de Dieu se fait dans son action. Et Ézéchiel, en effet, l'utilise toujours après l'avoir annoncé, avoir annoncé ou décrit une action du Dieu d'Israël. Dieu se révèle, mais en se révélant, il cherche avant tout à ce que ceux auxquels il se révèle le connaissent ou le reconnaissent. Il ne s'agit pas pour Dieu d'utiliser l'homme et le monde dans un but de propagande de gloire personnelle, non, non. Il s'agit pour Dieu de la vie du peuple, sa vie au peuple. Le peuple ne peut vivre que s'il connaît le Seigneur, la source de vie. La population de Montréal et des environs auxquels je parle ne peut vivre que si elle connaît le Seigneur, qui est la source de vie. La source de vie qui sort du temple, qui sort du côté de l'Église blessée. J'aimerais conclure en rappelant que le prophétisme en Israël est né comme une institution soumise à la monarchie. La communauté croyante a reconnu comme vrais prophètes précisément ceux qui ont une conscience critique. Le vrai prophète biblique est celui par qui Dieu critique et réajuste sans cesse la foi d'Israël. Comme on a besoin d'être critiqué ici chez nous. Nos mariages à la dérive, notre manque de prière, d'esprit de prière, notre manque de foi. Le prophète, c'est l'homme de la parole de Dieu inattendue, de l'annonce de l'action de Dieu imprévue. Ézéchiel, comme aucun autre prophète, a eu la chance de présenter avec une force incomparable la radicalité de la perversion et de la rébellion de son peuple. Il annonce, il appelle à la conversion, qui est une des caractéristiques essentielles des grands prophètes bibliques. Et la conversion, ça suppose la conscience du péché. On pourrait difficilement dire quelque chose de plus terrible sur l'infidélité d'Israël que ce qui est contenu dans ce livre. Mais ça s'applique à nous aujourd'hui. Ézéchiel annonce après le désastre la restauration puis l'espérance. Il est plein d'espérance. Revenir, rassembler, nouveau cœur, esprit nouveau, vivre, prospérité, paix, tous ces mots, ça jaillit dans son message. Et tout en restant lui-même très sensible mais fort tendre, Ézéchiel, comme prophète, est entré dans cette série des envoyés par le Dieu d'Israël. Comme pour tous les autres prophètes, le point de départ absolu de son message, c'est la certitude du don radical que Dieu fait à son peuple. Ce don radical, c'est lui-même. Envers et contre tout, Dieu veut être le Seigneur d'Israël, Dieu veut être le Seigneur de l'humanité, il veut être notre ami, il veut être au fond de nous vivants, il veut être en rapport, en communion avec son peuple, il repart à neuf chaque fois que le peuple a rompu cette communion. Et voilà la base de la foi d'Israël. Le Dieu d'Israël veut que son peuple vive. Il veut que nous vivions Dieu. Il est prêt à tout et à n'importe quoi pour que son peuple l'accepte et que la communion soit établie pour toujours. Oh. Depuis le Concile Vatican II, les catholiques ont souvent entendu proclamer que les baptisés sont à la suite du Christ un peuple de rois, de prêtres et de prophètes. Oui, nous sommes des prophètes. Mais ça ne veut pas dire que le chrétien a à jouer au prophète. On ne joue pas au prophète, non. Être prophète à la suite d'Ézéchiel, c'est être attentif à ce qui se passe en nous et autour de nous. C'est être capable de lire les événements pour les comprendre, avoir les yeux ouverts et l'oreille aux aguets pour voir et entendre, être prêt au changement, au retournement, à la conversion, ne pas s'accommoder, ne pas se couler dans un moule, ne pas s'installer dans la monotonie puis dans la répétition des petits actes, ne pas prendre le passé comme seule norme et seul horizon, regretter ce qui était autrefois, là. Faut avoir de l'espoir, être enraciné dans l'espérance, ne pas avoir peur, et croire dans la vie puis dans les autres. C'est tout simplement quoi? Suivre sur son chemin Jésus-Christ, le prophète. C'est lui le prophète. C'est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage, le témoignage de Jésus, certifie par là que Dieu dit la vérité. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Un très bel évangile aujourd'hui.